Voilà, nous sommes réunis ce soir pour parler d'un sujet d'actualité, la tolérance. On nous en parle aujourd'hui partout, c'est même la vertu par excellence dans le monde moderne. Et tout le monde se doit d'être tolérant. Le grand crime aujourd'hui, on peut le dire, c'est être intolérant ou intégriste. L'intolérance, c'est synonyme de sectaire, de fanatique. Et comme catholiques, si nous sommes pleinement catholiques, eh bien nous aurons droit à ce qualificatif d'intolérant. La difficulté, c'est que ce mot tolérance a finalement aujourd'hui deux sens. Son sens originel, son sens catholique, qui était une permission négative du mal, d'un mal qu'on ne peut empêcher, ou qu'on tolère en vue d'un plus grand bien, et une définition que l'on peut qualifier de moderne, c'est-à-dire l'acceptation de toute doctrine, de toute pratique, de toute mœur, quelle qu'elle soit, sans aucune limite. Et ces deux sens sont totalement opposés. On peut dire que c'est la Révolution qui a repris un terme d'origine catholique pour en changer totalement le sens. Et pour aborder le sujet, eh bien, je verrai ces deux sens successivement. Je commencerai par le sens moderne de la tolérance pour montrer comment il est un mensonge et il est faux, avant de voir quelle est la vraie tolérance telle que l'Église l'enseigne et l'a pratiquée. Tolérance qui n'est jamais une vertu puisqu'elle concerne un mal que l'on supporte. Alors, avant de commencer un petit peu sur la tolérance, voir un peu un historique de la question. Quand nous parlons de tolérance, on pourrait le voir, bien sûr, au niveau familial. Le père ou la mère de famille qui tolère tel défaut ou telle bêtise chez l'enfant sans punir, en vue de son éducation, ou pour éviter une révolte qui serait malvenue. Ça, c'est un premier aspect de la question. Mais nous le voyons, nous, sous l'aspect historique, des rapports dans le domaine religieux, entre l'Église et l'État. Comment faut-il se comporter vis-à-vis des doctrines religieuses qui se répandent dans la société, notamment l'erreur, l'hérésie, le schisme? Comment faut-il agir vis-à-vis de cela? Alors tout d'abord, faire un peu un historique de la question depuis l'Empire romain. Et si nous allons essayer de le faire assez rapidement, mais ça nous donnera un petit peu une vue générale. L'Empire romain, avant l'ère chrétienne, se montre en fait en apparence très tolérant. On voit l'Olympe national, là où sont mis tous les dieux de l'Empire, s'agrandir régulièrement. Au fur et à mesure des conquêtes romaines, les généraux victorieux ramènent les idoles des différents peuples et après un senatus consulte, les font entrer dans l'ensemble des dieux romains dans l'Olympe. Et quand apparaît le christianisme, la première réaction de l'Empire est la même. Une grande tolérance apparente, et finalement, eh bien, le christianisme est accepté dans un premier temps au même titre que les autres religions. On voit même l'empereur Sévère Alexandre mettre dans son oratoire privé, à côté des dieux de l'Orient, des différents de Zeus, de Junon et de Jupiter, mettre Abraham et Jésus. Donc une très grande ouverture d'esprit. Mais cependant, dès l'an 64, même un peu avant, commence la persécution des chrétiens. C'est là que seront mis à mort Saint-Pierre et Saint-Paul. Le prétexte est l'incendie de Rome, que l'empereur Néron attribue faussement aux chrétiens pour se dégager des suspicions que le peuple a contre lui. On l'accuse d'avoir lui-même mis le feu à Rome afin de reconstruire la ville. Mais par-delà ce prétexte historique, il est bon de voir ce que l'on reproche dans les premiers temps aux chrétiens. Par la suite, il y aura toute une mythologie, les chrétiens qui adorent une tête d'âne ou qui font des sacrifices d'enfants, mauvaise connaissance de l'Eucharistie. Mais voyons au début, Pline le Jeune, c'est donc au 1er siècle, qui écrit à l'empereur Trajan. « Je ne doutais pas, quoi qu'il en soit de leur dogme, qu'il fallut punir leur entêtement et leur obstination inflexible. » Donc ce que l'Empire voit, ce n'est pas la doctrine chrétienne, les vérités enseignées. Ils sont totalement indifférents à cela. Mais l'entêtement et l'obstination inflexible. Et on retrouve la même chose, c'est tacite, vis-à-vis des chrétiens. Ces mots qu'on pourrait lire aujourd'hui sous n'importe quel journaliste libéral. Ce ne sont point des criminels, mais des intolérants, des misanthropes, des ennemis du genre humain. Il y a chez eux une foi opiniâtre à leurs principes, et une foi exclusive qui condamne les croyances de tous les autres peuples. Voilà pourquoi, donc, les catholiques ont été, dès le premier siècle, persécutés. Pourtant, l'Empire semblait d'une tolérance universelle. C'est qu'en fait, la foi chrétienne se proclame au-dessus de l'Empire, au-dessus de l'Empereur, et refuse de se soumettre à la religion d'État. Tous les autres dieux sont, d'une certaine manière, intégrés à la religion d'État. Et il y a parmi les dieux l'Empereur déifié auquel il faut rendre un culte, même si on n'y croit pas. Les chrétiens refusent cette religion d'État, proclament qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est là le motif des persécutions. Quand viendra l'empereur Constantin, l'Empire se convertira, viendra à la foi chrétienne en l'an 312. Et les empereurs qui jusque-là avaient régenté la religion auront la tentation de continuer. Et bien, les empereurs romains feront et déferont les évêques, selon qu'ils seront catholiques ou ariens, ils banniront les uns ou les autres. Cependant, de même, les empereurs lutteront contre le paganisme, mais il n'y aura jamais de persécution à proprement dite contre les païens et même contre les hérétiques. Car il n'y a pas de contrainte pour amener à la foi. Nous le verrons, c'est un principe, on ne peut pas contraindre quelqu'un à adhérer à la foi chrétienne, un non-baptisé. C'est différent donc pour ceux qui ont reçu baptême. On interdira aussi le culte public et le prosélytisme de la part des païens, des fausses religions. Et bien sûr, les empereurs, mais ça c'est dans l'ordre politique, interdiront les sectes qui portent un tort à l'ordre public, qui par leur vérité ou leur dogme risquent de détruire la société. Il y a dans le droit romain des textes assez sévères contre les païens et les hérétiques, mais très souvent l'application a été assez douce. Les textes sont bien plus terribles que les sanctions prononcées. L'Église acquérera un peu sa liberté, notamment avec un saint Ambroise de Milan, quand l'Empire romain tombera dans la décadence, eh bien, l'Église arrivera à conquérir une vraie liberté. Les Mérovingiens laisseront en général une grande liberté dans le domaine religieux. Charlemagne aussi dans l'ensemble. Il y aura l'épisode des Saxons où il les contraindra soit à se faire baptiser, soit à être mis à mort. Mais là, l'Église, par la voix d'Alcuin, donc un évêque, eh bien, le reprendra. La foi est affaire de volonté, dit Alcuin, et non de nécessité. Comment forcer un homme à croire ce qu'il ne croit pas? On peut le pousser au baptême, mais non à la foi. L'homme, être intelligent, raisonne. L'enseignement, le zèle de la prédication, doivent l'amener à reconnaître la vérité de notre sainte foi. Et la prière, surtout, doit faire descendre sur lui la clémence de Dieu Tout-Puissant. Car la parole retentit inutile, c'est la rosée de la grâce numecte le cœur de l'auditeur. L'Église, donc, se répand sa foi non pas par la force ou par la violence, mais par la prédication et par la prière. L'Inquisition apparaîtra au XIe, XIIe siècle, dans les pays du sud de la France, le Languedoc, où apparaîtront les cathares, il y aura aussi ce qu'on appelle une autre hérésie, les vaudois, qui se prétendaient les purs. Cette religion, cette hérésie qui découle du manichéisme, c'est-à-dire qu'il y a deux dieux, le dieu du bien et le dieu du mal, le dieu du bien qui a créé les esprits et le dieu du mal qui a créé tout ce qui est matériel. Cette hérésie est détruite de la société, car tout ce qui est matériel est considéré comme mauvais. Le mariage sera donc condamné, car eh bien, il entraîne la perpétuation des corps, des êtres humains, et donc un mal. l'enfant à naître sera appelé par eux un démon. Et si une femme attend un enfant, elle devra prendre tous les moyens pour s'en débarrasser avant la naissance. De même, pour pouvoir parvenir au ciel, eh bien, il sera conseillé de se donner la mort par le suicide, le poison ou autre chose. On voit donc une hérésie qui détruit tout. Elle conduit en fait chez quelques-uns, chez les purs, à une vie totalement désincarnée, mais chez les autres à une licence effrénée. Puisque pour aller au ciel, il suffit de recevoir avant de mourir le consolamentum, donc un pur, un cathare, pris sur le mourant, et il va au ciel sans avoir à restituer les rapines ou les vols qu'il a pu commettre, quoi qu'il ait fait. C'est extrêmement pratique, et le catharisme va se répandre notamment grâce aux marchands lombards, qui étaient guère honnêtes, qui pratiquaient l'usure, que l'Église condamnait. Donc pour eux, cette religion leur permet de mener leur commerce librement. Il y a aussi les seigneurs féodaux qui voient là l'occasion de s'emparer des biens d'Église, et même certains comtes de Toulouse, bien l'occasion de se libérer de l'Église. Et il y aura finalement une véritable persécution des catholiques, ce qui donnera naissance à la croisade contre les Albigeois, dirigée par Simon de Montfort, que l'on a accusé de beaucoup de crimes. Mais là encore, on le voit, c'est une défense. Et auront lieu les premiers tribunaux d'inquisition, c'est-à-dire l'Église qui jugera et condamnera les hérétiques, donc relapses, donc ceux qui ont renoncé à l'hérésie et qui retourneront, ou ceux qui commettront des crimes. Ensuite, il y aura la réforme protestante, la dite réforme protestante, qui se montrera extrêmement intolérante. On voit un Luther qui invite à massacrer tous ceux qui s'opposent à sa doctrine. Un Calvin à Genève qui fait brûler Michel Servet, qui était un autre prédicant, un autre protestant, qui avait une doctrine légèrement différente de la sienne. Calvin, à Genève, instaure ce qu'il appelle le droit commencement de la vraie religion. C'est-à-dire qu'il fait venir toute la population devant les tribunaux de la ville et les force à prêter le serment à la nouvelle religion, ou alors, ils sont bannis ou punis d'autres peines. Voilà donc un peu la conception dans les départs protestants. On voit aussi en France, dans les guerres de religion, les protestants qui font de nombreux massacres de catholiques, qui sont d'ailleurs historiquement bien antérieurs au massacre de la Saint-Barthélemy qui a été dirigé par le roi de France qui craignait pour son trône. Les protestants luttaient contre le pouvoir. En Angleterre, on voit la même chose. Quand Henri VIII divorce pour épouser Anne Boleyn et crée une religion d'État, se fait le chef de l'Église anglicane, il exige de tous ses sujets un serment. Et ceux qui ne le font pas sont condamnés pour haute trahison. Ensuite, on passera du schisme en Angleterre à l'hérésie et tout le monde devra suivre. Dans le Palatinat, l'électeur palatin, Frédéric III, passe au calvinisme, son fils Louis continue dans cette hérésie et vient ensuite Casimir. Et les prédicants calvinistes lui trace un joli programme pour son règne. Ils lui disent, nous sommes au XVIe siècle, « Ô puissant Casimir, chasse les suppôts de Luther. Par l'épée, la roue, par la noyade, par la corde et par le feu, fais-les périr. » Un exemple donc de tolérance. Voyons un petit peu en terre catholique maintenant. Il n'y a jamais eu de ce principe de la liberté de religion. L'édit de Nantes, accordé par Henri IV, était un édit de tolérance, c'est-à-dire qu'on, pour rétablir la paix civile, on permettait aux protestants d'exercer leur culte dans certaines régions, dans certaines limites, non pas partout. Ils avaient droit à un ou deux lieux de culte par ville ou par... C'était donc vraiment, on verra, le principe de la tolérance. Et Louis XIV a ensuite révoqué l'édit de Nantes, et d'ailleurs exercé certaines répressions à l'égard des protestants. Et il se fera reprendre même par les catholiques. Monsieur de Bellestat, dans son plaidoyer pour la douceur, adressé à Louis XIV, dira « On donne pour axiome incontestable que pour qu'un État se maintienne en paix, il faut qu'il n'y ait qu'un roi, qu'une foi, qu'une loi. » En France, les protestants sont non seulement hérétiques, mais même il complote contre le pouvoir royal. Voilà pourquoi, donc, le pouvoir civil va lutter et même les condamner. Quelles sont les doctrines à cette époque vis-à-vis des autres religions? Un peu partout, alors après la Renaissance, c'est le principe de la religion d'État qui va prévaloir. On dit, ce sera le principe cuius regio, ilius et religio. Selon la religion, chacun devra donc adopter la religion de l'endroit où il vit. C'est la religion du prince qui s'imposera au sujet, spécialement chez les protestants. Voilà pourquoi en France, d'ailleurs, les catholiques résisteront, souhaitant garder la foi. Car si les protestants prennent le pouvoir, ils savent que les églises et le culte catholique sera fermé. En France même, les papes, ou en Europe, auront du mal à faire respecter les droits leurs droits sur l'Église. En France, il y aura le gallicanisme, où l'on tend à faire de l'Église de France une Église nationale, indépendante de Rome. En Autriche, il y aura aussi la tentation du joséphisme. Mais là où il n'y a pas de pape chez les protestants, eh bien, il y aura vraiment une unité entre la religion et le pouvoir civil. Et Jean-Jacques Rousseau, d'origine protestante, aura cette même conception. La religion est une religion d'État, et pour lui, cette religion doit être une religion naturelle. C'est au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle qu'apparaissent les théories en faveur d'une tolérance érigée comme principe absolu, un petit peu une sorte de droit à la liberté religieuse. Tout d'abord chez les protestants, en Hollande, puisqu'il y a eu une répression de l'Espagne, la Hollande est à l'époque un territoire de l'Empire, de l'Empire espagnol, eh bien, ils prétendent que bien toutes les religions, finalement, reviennent à la même chose. Toutes les religions chrétiennes se ramènent à une même chose, qu'il faut avoir un certain nombre de dogmes de base et qu'il doit y avoir une tolérance. En Angleterre, John Milton a la même théorie. Mais il nie le dogme de la Trinité et il exclut de la tolérance ce qu'il appelle l'idolâtrie papiste. Donc on voit tolérance, ça, assez limité. Mais c'est surtout avec les sceptiques et les rationalistes que la doctrine de la tolérance va se répandre. Selon eux, on ne peut pas connaître Dieu. L'intelligence humaine est limitée. Et finalement, comme on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut avoir que des opinions plus ou moins douteuses, plus ou moins certaines. Donc, ils affirment qu'il faut une grande liberté religieuse. C'est la doctrine actuelle. D'autres prendront prétexte de la douceur du christianisme, qu'il faut laisser chacun libre de faire ce qu'il veut. Certains diront aussi, Dieu tolère les hérétiques, ceux qui sont dans l'erreur, eh bien, nous n'avons pas à intervenir. D'autres invoqueront la conscience humaine qui est inviolable. Cet argument sera repris par Vatican II pour affirmer la liberté religieuse. Ou alors pour des raisons pratiques, pour préserver la paix. Mais c'est surtout la philosophie des Lumières qui est l'apôtre de la tolérance au sens moderne. La philosophie des Lumières qui est encore l'inspiratrice de notre idéologie actuelle. Les liens entre le XVIIIe siècle de Voltaire, de Rousseau et notre monde actuel, ces mêmes principes de base. À l'origine, il y a d'abord quelques protestants, notamment Pierre Bel, qui vécut fin 17e, début 18e. Né d'une famille protestante, il se convertit à 22 ans. À 23 ans, il repasse du catholicisme au protestantisme. Il est professeur de philosophie à Rotterdam. Et c'est en fait un sceptique et un cartésien. Et c'est de lui, principalement, que tous les philosophes des Lumières s'inspireront. Il est célèbre notamment pour son livre sur les pensées diverses sur la comète de Halley qui était apparue à cette époque, et il en profite pour attaquer ironiquement l'Église catholique, notamment certains qui paniquaient à la pensée de cette comète qui pourrait peut-être percuter la Terre. Parmi les propagateurs de cette tolérance au XVIIIe, il y a d'abord Turgot, qui fut donc chargé des finances de France, un protestant, qui écrit une lettre à un grand vicaire sur les protestants. il y a le Conciliateur, écrit par l'Hominide Brienne. Dans l'Encyclopédie, donc cette somme des connaissances de l'époque, mais dans un esprit foncièrement anticatholique, il y a un article du pasteur Romilly sur la tolérance. Il y a enfin, de Voltaire, un traité de la tolérance. Et leur idéologie sur la tolérance s'imposera avec la Révolution française. La Constitution du 14 septembre 1791 affirmera que l'opinion est libre et que son expression même publique est toujours autorisée en principe. Donc faculté de tout dire, de tout faire dans le domaine religieux. Et cela est fondé sur la liberté humaine et la liberté individuelle. Dans la pratique, ça sera très différent. On verra que l'Église sera persécutée. Dès 1790, c'est la Constitution civile du clergé, où l'on force l'Église de France à se séparer de Rome. Prêtres et évêques doivent être élus par le peuple, et ils n'ont pas le droit de demander la reconnaissance par le souverain pontife, donc Église schismatique. Puis on imposera pendant un an le culte de la déesse raison, avant de passer au culte de l'être suprême. Tout cela donc sera obligatoire, et ceux qui ne suivront pas le paieront de leur vie. Depuis la Révolution, eh bien, ces principes de tolérance seront appliqués et même pénétreront dans l'Église avec Vatican II. Essayons de voir un petit peu maintenant quels sont les fondements de cette tolérance moderne. Eh bien, on peut, d'après les auteurs, notamment Voltaire, les ramener à quatre principaux. Tout d'abord, ne pas faire à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on fasse à nous-mêmes. Le second principe, c'est que la vérité est subjective et que par conséquent, nul n'a le droit de donner sa raison pour règle. On ne peut pas imposer sa raison aux autres. Toute religion n'est qu'une opinion parmi d'autres. Cela découle logiquement du principe précédent. Et finalement, l'État ne doit jamais intervenir dans les affaires qui regardent le salut éternel. Cette tolérance, ils la définissent négativement. Elle est pour eux le contraire du fanatisme, comprenez, du catholicisme. Pour eux, le fanatisme, c'est ce zèle abusif et furieux de ceux qui veulent imposer aux autres leur propre opinion, spécialement en matière de foi. Mais cette tolérance n'est pas que négative. C'est Voltaire qui le dit. Elle est le régime de la raison qui éclaire lentement, mais infailliblement, tous les hommes. Pour lui, elle renforce le lien social et elle fait cesser la guerre. Et cette tolérance même doit être active et elle doit combattre l'intolérance. C'est ce qu'écrit le pasteur Romilly dans l'Encyclopédie. Les souverains éclairés doivent réprimer ces discours téméraires qui pourraient porter dans les cœurs la licence et le dégoût des devoirs, donc le fanatisme. Et Voltaire, il faut que les hommes commencent par n'être pas fanatiques pour mériter la tolérance. Pas de tolérance pour les ennemis de la tolérance. Donc pour les catholiques, il n'y a pas de tolérance. La Révolution d'ailleurs mettra à mort au cri de « pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Ainsi, eh bien, pour bénéficier de la tolérance, selon eux, il faut adhérer aux principes de base de la tolérance, qui sont les droits de l'homme, et on le verra même, le refus de Dieu. L'Église, elle, en sera donc exclue. Voyons un petit peu où sont les erreurs de ces doctrines. A priori, telle que nous présente la tolérance aujourd'hui, eh bien, il y a diverses opinions. On vit dans une société pluraliste et ouverte, comme on lit souvent dans les documents du Vatican aujourd'hui. Et pour assurer une bonne entente et une paix entre les hommes, eh bien, il faut que chacun puisse avoir son opinion librement, sans qu'on en discute. C'est un peu l'esprit de la nouvelle méthode d'enseignement des religions, cette nouvelle matière imposée en Valais, c'est ce dont on lui parlait, Enbiro, où on va faire une infâme soupe de toutes les religions qui seront déformées, spécialement le catholicisme, et qu'on donnera aux enfants pour, dit-on, leur donner l'esprit de tolérance ou même une identité planétaire. En matière de religion, chacun peut donc penser ce qu'il veut et on ne se bat pas. On a une religion comme on pratique un sport. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Mais si l'on va plus loin, on s'aperçoit que cette tolérance n'est que la conséquence pratique de principes rationalistes. Et c'est toute l'habileté de cette arme de la tolérance, c'est qu'on nous montre une conséquence qui peut paraître à première vue bonne. Et on cache les principes qui sont derrière, principes profondément anticatholiques. Et Voltaire avait raison quand il disait que la tolérance est le régime de la raison qui éclaire lentement, mais infailliblement tous les hommes. Si on accepte ce principe, eh bien la raison, c'est-à-dire l'esprit antichrétien, ce refus de la foi, cet esprit rationaliste, finira par triompher de la foi. Un des principes sur lesquels est fondée la tolérance, on l'a déjà vu, c'est que la vérité est subjective. Cela vient des sceptiques et de Descartes. Vérité subjective, c'est-à-dire ce n'est plus le réel qui s'impose dans la connaissance à l'individu, c'est l'individu lui-même qui fait la vérité. À chacun sa vérité. Je crée ma vérité. Et il y a là une erreur. Bon, je vais passer très rapidement là-dessus, résumer rapidement un peu cette philosophie fausse. Dans la doctrine traditionnelle, saint Thomas d'Aquin définit la vérité comme adéquatio rei et intellectus, une adéquation de la chose et de l'intelligence. Notons bien, il ne dit pas de l'intelligence à la chose, mais de la chose et de l'intelligence. Car dans la vérité, il y a deux mouvements. On peut dire un premier mouvement de connaissance. C'est l'intelligence qui se conforme au réel et qui connaît par ce biais-là le réel. Et à l'acte de, on peut dire, de fabrication, quand l'homme fait une chose, eh bien, il imposera sa pensée, sa vision de la chose qu'il a dans la tête, dans le réel. Donc, c'est un mouvement inverse. C'est la chose, à ce moment-là, qui s'adaptera à la raison humaine. Pour le subjectiviste, eh bien, il n'y restera que le deuxième mouvement. C'est finalement la raison humaine qui crée le réel. Et l'origine de cette erreur, on peut l'attribuer principalement à Descartes. Vous connaissez tous son « je pense, donc je suis ». Descartes prétend que les sens nous trompent. Il prend l'exemple du bâton trempé dans l'eau, et par réfraction de la lumière, eh bien, le bâton qui est droit paraît courbe. Il dira donc « les sens nous trompent ». On ne peut pas se baser sur la connaissance sensible pour fonder une certitude. Il cherchera donc un principe premier absolument certain sur lequel il puisse fonder toute la philosophie. Et ce principe, c'est le cogito ergo sum, je pense, je doute, donc je suis. Parce que j'ai ce doute en moi, eh bien, c'est la preuve que j'existe. Finalement, ce qui est mis en premier avec Descartes, c'est l'intelligence elle-même qui est mise en premier. Ce n'est plus le réel qui lui vient. Où est l'erreur chez Descartes? Eh bien, on peut dire que c'est de mettre cette question, ce doute, est-ce que je connais vraiment le réel, en premier. Si je connais une chose, j'aperçois un arbre, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, je vois l'arbre et je me poserai la question, mais est-ce que je vois bien cet arbre? Cette question donc du doute viendra nécessairement en second. C'est une question, comme on dit, réflexe, l'intelligence qui revient sur sa connaissance elle-même. C'est comme une boucle, elle revient sur elle-même. Et donc c'est un acte second. Descartes, lui, dit, il faut mettre ce doute en premier. Et c'est absurde. Parce que je ne pourrais pas me poser la question, est-ce que je connais cet arbre? Puisque je ne l'ai pas perçu. Si le doute est en premier, est-ce qu'il n'y a plus de doute, plus rien? Donc c'est là la première erreur. Donc cette inversion, la question de savoir si notre connaissance est juste ou pas, est légitime, et elle est traitée d'ailleurs en philosophie, mais elle est traitée en second. On peut dire aussi qu'il se trompe parce que, en réalité, la connaissance sensible ne nous trompe pas. Prenons l'œil, l'image qui est sur la rétine est conforme à la réalité, à l'arbre. Cela passe donc par les différents organes de l'œil et c'est une image inversée qui s'imprime sur la rétine et qui est semblable. Et cette image ne demeure que tant que l'œil est ouvert ou qu'il est en face de l'objet. C'est d'une certaine manière, il n'y a pas deux choses, il n'y a pas l'arbre d'un côté et l'image dans l'œil, ou même la connaissance dans l'intelligence. La connaissance est un acte unique, C'est un petit peu comme celui qui se met devant un miroir. Tant qu'il reste devant le miroir, il se voit. Dès qu'il s'éloigne, son image n'est plus dans le miroir. C'est, on ne peut pas dire qu'il y a deux choses. Comme il n'y a qu'un acte, on est certain du réel de l'intelligence. Comment finalement résumer cette erreur du subjectivisme qui commence avec Descartes? Eh bien, par le doute, comme on doute, eh bien, on rejettera toute connaissance sensible. C'est un peu comme celui qui s'enferme dans sa maison, mur, porte et fenêtre, et puis se dira, mais qu'est-ce qu'il y a dehors? Alors certains, philosophes modernes, essaieront de sortir par la cheminée. D'autres, de creuser un trou dans la cave, d'ausculter le sol, ou on ne sait trop quoi. Toute la philosophie moderne, c'est comment connaître ce qui est en dehors, alors qu'on s'est enfermé soi-même par, je dirais, cette question du doute. La conséquence de cette philosophie, c'est que c'est finalement l'intelligence qui tourne sur elle-même qui est première. Et finalement, il n'y a plus de vérité absolue, puisqu'il n'y a plus de réel, de connaissance du réel. Chacun est donc le propre maître de sa vérité. Chacun fait sa vérité, crée le réel, et à ce moment-là, eh bien, on ne peut pas imposer sa propre conception du monde, puisqu'elle est purement personnelle. Si on ne connaît pas le réel, eh bien, on ne peut pas même connaître Dieu, puisque pour prouver que Dieu existe, il faut qu'on parte du réel sensible. Ces jours-ci, je ne sais pas si c'est passé d'ailleurs ou pas, le pasteur Janton va donner une conférence intitulée « Ce Dieu qui sort des brumes de l'intelligence humaine ». On voit très bien, dans cette philosophie subjectiviste, eh bien Dieu n'est qu'une émanation de la subjectivité de chacun. Voilà pourquoi, en conséquence, la religion n'est plus qu'une opinion. On ne peut plus savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux. Comme ce n'est qu'une opinion personnelle, eh bien, que c'est une question disputée, douteuse, eh bien, chacun peut dire ce qu'il veut et on ne peut absolument rien imposer. La conséquence suivante, c'est donc cette liberté religieuse que l'État doit respecter et affirmer. Chacun, en matière religieuse, peut dire et faire ce qu'il veut. Et enfin, l'État doit même réprimer l'intolérance. Pourquoi cela? Eh bien, parce que si, finalement, une opinion douteuse, comme une religion, prétend s'imposer comme la seule vraie, c'est anormal. Prenons un exemple. Je pratique le football et j'aime ce sport. Tout le monde me laissera le faire librement. Mais si je viens dire qu'il n'y a que ce sport qui est bon et qu'en conséquence, il faut interdire tous les autres. Les amateurs de handball, de hockey ou d'autres sports seront tous furieux et légitimement et diront « Mais cet amateur de football, les footballeurs sont des gens intolérants, insupportables, qui nuisent à la République, il faut les interdire. » Dans le domaine religieux, eh bien, on aura le même phénomène. Puisque la religion n'a rien de certain, eh bien voilà. Et on voit dans ces pays vraiment libéraux comme aux États-Unis, eh bien on a une religion comme on pratique un sport. La question, c'est oui, vous êtes de quelle religion? Moi, je suis catholique, moi, je suis adventiste, je suis peu importe. Ah oui, et puis vous faites quoi comme sport? Moi, je pratique le golf. C'est exactement pareil. Cela, finalement, conduit à une négation de Dieu. Dieu n'est finalement plus qu'une invention humaine. Il n'y a pas de Dieu, ou du moins, si Dieu existe, eh bien, on ne peut pas le savoir. Donc, c'est Dieu qui est mis en dehors de la réalité. Et cela est bien exprimé dans la Déclaration des droits de l'homme. On pourrait détailler tous les principes, mais à la base de cette déclaration, il y a finalement un manque. On ne parle pas de Dieu. C'est l'homme qui est mis en premier. Comme disait Jean Madiran, c'est les droits de l'homme sans Dieu. Et pour jouir finalement de la tolérance, il faut adhérer, c'est ce qu'on nous dit partout, aux droits de l'homme. C'est-à-dire à refuser de mettre Dieu en premier. Voilà la conséquence première. Et dire qu'il y a un Dieu, dire qu'il y a une vérité, une certitude, c'est être fanatique. Et on voit d'ailleurs l'État qui maintenant prétend régenter la religion. C'est la méthode Nbiro qui vise à établir une religion mondiale, soupe, mélange de toutes les religions. Quand en France, il y a eu un projet de loi sur les sectes, comment on devait définir une secte? Eh bien, c'est ceux qui ne respectaient pas les principes de base de notre société, les droits de l'homme. Donc, pour qu'une religion soit admissible, il fallait qu'elle ait une organisation démocratique, un pape élu par le cardinal, c'est une guerre démocratique, qu'elle respecte l'égalité des sexes, c'est tout le problème de l'ordination des femmes, qu'elle pratique la tolérance, etc. C'est finalement l'établissement d'une religion, d'un État athée, une sorte de religion athée. Si on reprend donc Nbiro, bien dans Nbiro, le christianisme est présenté d'une manière très tolérante. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Quand on parle de la résurrection, on dit qu'on ne sait même pas si Jésus est mort ou pas. Certains chrétiens disent qu'il ne serait pas mort. Les sacrements, il n'y a rien de solide. Tout ce qu'on enseigne à l'enfant, c'est que ça se donne dans une église, sauf le sacrement des malades. C'est un petit peu court. Et on le voit, c'est vraiment la mise en place de la religion mondiale, religion de ce nouvel ordre. Et plus d'ailleurs que par la persécution directe, la foi chrétienne a été détruite par cette tolérance libérale qu'on vise à nous imposer. En fait, la tolérance telle qu'elle est exposée là, ce principe libéral, est une attaque contre la vérité, contre l'Église catholique. Et il y a finalement un piège pratique, on va le voir rapidement. Prenons par exemple le cas de l'enseignement biblique interreligieux roman. Dans le Valais, c'est-à-dire catholique, dans les écoles, était donné l'enseignement du catéchisme. Ceux qui n'étaient pas catholiques pouvaient s'en dispenser. Et il était normal que les enfants catholiques puissent recevoir l'enseignement de leur foi. Par une décision unilatérale, on suspend le catéchisme et on impose un enseignement des religions qui détruit la foi. Quand les catholiques viennent protester contre ce changement, on dépouille les enfants de la foi chrétienne et de leur civilisation, qu'est-ce qu'on leur répond ? Mais vous êtes intolérants ? Regardez, dans cette nouvelle méthode, le catholicisme a une place égale à l'islam, à l'hindouisme, au bouddhisme et à 9 autres religions. Vous devriez donc être aussi contents que les autres. Les musulmans sont contents, les hindouistes sont contents. Qu'avez-vous à protester ? Et s'ils continuent à se plaindre, ils sont intégristes, intolérants, fanatiques. Le cas de l'homosexualité, comment on est en train de nous imposer ces mœurs contre nature. On impose d'abord une gay pride en Valais, protestation de la population dans son ensemble. On leur répond, eh bien vous êtes intolérants parce que finalement on ne demande que les mêmes droits que vous, vous avez. Vous avez le droit d'avoir une union reconnue, d'avoir des avantages pour les successions, pourquoi eux n'y auraient pas droit ? Vous êtes intolérants, homophobes. Vous devriez même être content qu'on vous autorise encore à vous marier. Voilà un petit peu ce langage de la tolérance. C'est un petit peu comme si quelqu'un, un ensemble de personnes, venait chez vous et s'installait chez vous. Mais au lieu de vous chasser totalement, eh bien, disent on partage la maison à égalité. Donc chacun des groupes prendra 2 ou 3 pièces dans la maison. Le propriétaire légitime dira « Mais je suis chez moi, qu'est-ce que vous faites là ?» On dira « Mais vous êtes intolérant. Écoutez, on vous partage à égalité ces pièces. Pourquoi vous auriez davantage de droits que l'autre ?» Eh bien la différence, c'est que le légitime propriétaire et qu'on ne peut pas le dépouiller de son droit de propriété. Eh bien de même, l'Église, qui est la vraie religion, détentrice de la vérité, et cela, elle peut le prouver. Il y a donc toutes ces preuves que l'Église est crédible, que Jésus-Christ a existé, qu'il est Dieu, il y a les miracles, les prophéties, tout cela. Ça serait l'objet d'une conférence, même de plusieurs conférences. Bien, l'Église est propriétaire légitime, et on vient la dépouiller. Et si elle proteste, eh bien, on l'accuse de tolérance. Les pillards, eux, peuvent se partager un butin à égalité, mais si il leur venait l'idée de partager le butin avec la personne qu'ils ont dépouillée. La personne qui a été volée, est-ce qu'elle se contenterait que d'une part du butin ? Non, ça serait injuste. Voilà pourquoi les fausses religions peuvent accepter cette tolérance, mais la vraie, elle, ne peut pas l'accepter. Vraiment, Voltaire avait bien vu quand il disait que la tolérance est ce régime de la raison qui éclaire lentement, mais infailliblement tous les hommes. C'est-à-dire, elle est ce régime qui, lentement mais infailliblement, fait perdre la foi. Pour eux, donc, c'est l'absence de toute contrainte en matière religieuse ou même morale. Chacun doit pouvoir faire tout ce qu'il veut. C'est donc le droit de l'erreur, le droit du mal. Finalement, cette tolérance, on peut le dire, c'est Monseigneur qui le disait, c'est une sorte de sida intellectuel qui prive l'intelligence et la volonté de sa défense naturelle. Elle ne peut plus résister vis-à-vis du mal. Et finalement, leur doctrine est un dogmatisme, car ils ont un dogme sur lequel on ne peut pas toucher, c'est que Dieu n'existe pas, ou que du moins, si un Dieu existe, on ne peut pas le connaître, et donc on peut faire ce que l'on veut. Voilà donc sur cette fausse tolérance, qui est une déformation du sens chrétien de la tolérance. Voyons maintenant selon l'Église. La meilleure définition de la tolérance est celle-ci, elle est donnée par Capello dans son traité du droit public ecclésiastique. La tolérance est la permission négative d'un mal réel ou supposé. La tolérance a donc pour objet le mal. Voilà pourquoi il n'y a pas de vertu de tolérance. La vertu est là pour perfectionner l'homme et en vue du bien. La tolérance portant donc sur un mal, elle ne sera jamais un bien. Peut-être pour pratiquer correctement la tolérance, quand elle doit être pratiquée, il faudra certaines vertus de patience, de bonté, de charité, de prudence surtout, car elle est avant tout essentiellement une œuvre de prudence. Mais en elle-même, eh bien, elle n'est pas une vertu. Et elle porte toujours sur un mal. Il n'y a pas de tolérance pour le bien, car il ne suffit pas de laisser faire le bien, il faut l'encourager, le vouloir. Et vis-à-vis d'un mal, je dirais, on ne peut accorder qu'une permission négative. Ce n'est pas dire « vous avez le droit de le faire », non. C'est simplement, on n'a quand même pas une liberté d'agir, on ne la reconnaît pas comme un droit, mais c'est purement temporaire. C'est-à-dire qu'on ne fait rien pour empêcher ce mal. Et cela pour, soit en vue d'un plus grand bien, soit pour éviter un mal plus grand. Alors cette tolérance en matière religieuse, eh bien, elle peut être pratiquée soit par l'Église elle-même, soit par un État catholique. Donc ça sera un petit peu différent. Et cette tolérance pourra concerner soit les doctrines elles-mêmes, soit des pratiques, ou même, elle pourra s'étendre aussi aux personnes. Comment se comporter vis-à-vis des personnes. Voyons tout d'abord dans l'Église, vis-à-vis des doctrines, des hérésies. Notre Seigneur a dit « Allez, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » C'était le jour de l'Ascension, juste avant de remonter au ciel. L'Église a donc cette mission de sauver tous les hommes, et de les sauver par l'enseignement de la foi. Elle doit donc veiller à préserver la foi de ses enfants des erreurs. Et accepter que les erreurs soient librement enseignées, c'est accepter que la foi des fidèles soit corrompue. En faisant cela, eh bien, l'Église ne remplirait plus sa mission d'enseignement. Vatican I affirme « La doctrine de la foi révélée de Dieu » n'a pas été proposée à l'esprit humain comme une doctrine philosophique qu'il avait à perfectionner. Mais elle a été confiée à l'épouse du Christ comme un dépôt divin qu'elle devait garder fidèlement et déclarer infailliblement. Aussi, l'on doit conserver perpétuellement au dogme sacré le sens fixé par une déclaration de nos saintes mères à l'Église. Il n'est jamais permis de s'écarter de ce sens sous l'apparence ou le prétexte d'une intelligence plus élevée. Donc ce qui a été défini comme étant de foi par l'Église ne peut jamais être changé, et il n'est pas permis de le remettre en doute. Dans l'enseignement catholique, il y a divers degrés de certitude. Il y a d'abord les choses qui sont de foi, enseignées par le magistère depuis toujours, des choses certaines. Il y a aussi les dogmes qui ont été définis, c'était maternité divine, immaculée conception, assomption, etc., divinité de Jésus-Christ. Toutes ces choses qui sont certaines, il n'est jamais permis de les nier, et même de tolérer l'erreur. Dire cela, c'est à ce moment-là craindre que l'Église se montre finalement d'une rigidité absolue, interdisant toute recherche théologique, toute étude, puisque tout est fixé et ne peut être changé. La réalité est bien différente. Si pour ce qui est de foi certaine et définie, il n'y a aucune discussion possible, on n'admet plus depuis la définition d'homme de l'Assomption qu'on discute le fait que Marie soit ou non au ciel avec son corps. Cela est certain. Il y a en réalité beaucoup d'autres domaines où la certitude est moins grande. Il y a des degrés, ce serait assez long à exposer tout cela. Eh bien, selon le degré de certitude, l'Église permettra une plus ou moins grande latitude aux théologiens pour discuter de ces sujets. Il y aura donc une réelle liberté. Et l'Église même ne permettra pas aux théologiens qui se disputent certains sujets, disputations théologiques, de se donner des titres même de censure ecclésiastique. Elle exigera cette charité et cette bonté. Il y a donc une vraie liberté. C'est le pape Innocent XI, au moment où il était question des doctrines probabilistes, qui conclut son décret qui condamne les probabilistes. Enfin, pour que les docteurs ou les scolastiques et tous les autres s'abstiennent désormais de toute dispute injurieuse, et pour qu'ils soient pourvus à la paix et à la charité, le même très saint pontife ordonne, au nom de la sainte obéissance, que dans les livres à imprimer et dans les manuscrits, aussi bien que dans les thèses, les disputes et les prédications, il se garde de toute censure ou note, ainsi que de toute invective contre les propositions qui jusqu'ici continuent à être matière à discussion chez les catholiques, jusqu'à ce que le Saint-Siège, après examen de la chose, ait proféré un jugement au sujet de ces propositions. Donc tant qu'Église n'a pas tranché, il reste cette grande liberté. L'Église a ce pouvoir sur l'Écriture sainte, de donner l'interprétation de l'Écriture sainte. Sur 33 000 versets que la Bible contient, l'Église a défini à peu près le sens de 80 versets. Il reste encore beaucoup de matière à discussion pour les théologiens, et finalement une vraie liberté. La tolérance maintenant vis-à-vis des pratiques mauvaises. Ça peut être les cérémonies extérieures de culte, ça peut être aussi des coutumes religieuses ou civiles qui sont étrangères à la discipline de l'Église. Voyons tout d'abord quelle est la position de l'Église vis-à-vis de ses propres fidèles, des baptisés, et ensuite vis-à-vis de ceux qui n'ont pas reçu le baptême. L'Église a ce devoir de conduire les fidèles dans la voie du salut éternel. Elle doit donc les mettre en garde contre le péché, contre tout ce qui peut écarter de la foi. Les pratiques qui sont contraires à la loi naturelle ou à la loi divine positive, ce que Dieu a clairement affirmé, c'est le cas des commandements, eh bien, il ne peut bien sûr y avoir là aucune tolérance, car c'est au plus profond de notre nature, c'est ce que Dieu a déclaré. Ainsi, on ne peut jamais tolérer les atteintes à la vie humaine. Tous les péchés, notamment l'onanisme, solitaire ou conjugal, l'homicide volontaire, le sacrifice humain, polygamie, polyandrie. Donc la polyandrie, c'est une femme pour plusieurs hommes, c'est vraiment contre nature. Toutes les impudicités graves, l'adultère, les révoltes graves contre l'autorité légitime, tous les actes qui impliquent une adhésion à l'hérésie ou à l'idolâtrie. L'Église en cela ne peut jamais tolérer et doit toujours réprouver. Car il est normal, il faut même préférer la mort physique à ce qui tue l'âme. Et elle doit donc condamner sévèrement, et même, on n'a pas le pouvoir civil l'Église, mais l'empêcher autant qu'elle le peut. Et c'est un petit peu ce qui est scandaleux aujourd'hui, c'est de voir que les évêques n'osent plus réagir et tolèrent, ne protestent plus contre toutes ces atteintes à la loi naturelle et la loi divine, que ce soit dans le domaine du divorce, négation du mariage indissoluble ou dans les atteintes à la vie, ou même les unions homosexuelles où les évêques acceptent, reconnaissent la possibilité d'un pacte civil uniquement autorisant leur union, ou même le comportement vis-à-vis des divorcés mariés dans l'Église moderne. Cela est un scandale, ça va contre la loi naturelle divine. Il y a ensuite d'autres choses qui, par nature ou en raison des circonstances, peuvent être reliées à l'infidélité, à l'idolâtrie ou aux hérésies. Et là, chaque fois qu'il y a un danger de scandale, donc de de troubler les autres dans leur foi ou de perte de la foi, eh bien l'Église peut aussi l'interdire. C'est la querelle des rites chinois. Fallait-il ou non permettre certains rites mortuaires chinois ? C'était disputé. Est-ce que c'était ou non des actes idolâtriques ? La doctrine de l'Église, donc, là, finalement, l'a interdit. C'est le cas aussi de l'index des livres prohibés, qui a été souligné par Paul VI sous l'Église, affirmé qu'un certain livre était dangereux pour la foi et interdisait aux fidèles de les lire. À moins, donc, d'une permission spéciale et de raisons graves pour les lire. Ça pouvait être, par exemple, en vue de les réfuter. Parce que ces choses, eh bien, conduisaient à la perte de la foi. Et là, il n'y a pas normalement de tolérance, sauf des cas exceptionnels. Bon, c'était le cas des mariages aussi entre personnes de religions différentes, qui souvent risquent de faire perdre la foi. Et l'Église ne le tolérait normalement pas, sauf pour éviter un plus grand mal, des péchés plus graves. C'est encore le cas vis-à-vis donc des cultes, des faux cultes. Est-ce qu'un catholique peut participer à un culte protestant ou autre ? Eh bien, s'il n'y a pas de danger de scandale, donc de faire croire aux autres qu'il a perdu la foi, et qu'il n'y a pas de danger pour qu'il perde la foi, il peut, pour des raisons sociales, de famille ou autres, assister à une cérémonie. Mais là encore, c'est très limité. Il y a ensuite, donc, vis-à-vis des non-catholiques maintenant. Là, le pouvoir de l'Église est beaucoup moindre. Parce qu'autant les baptisés appartiennent à l'Église, appartiennent à cette société, et l'Église a un pouvoir sur eux, autant les non-baptisés, eh bien, n'ont pas, l'Église n'a pas de pouvoir directement sur eux. Alors, que faire vis-à-vis donc des faux cultes ? Est-ce que l'Église peut les interdire ? S'ils sont contraires à la loi naturelle, des sacrifices humains ou des choses graves, il faut l'interdire. On l'a vu, on ne peut jamais accepter ce qui est contraire à la loi naturelle ou la loi positive de Dieu. Si simplement des choses comptent simplement contraires à la foi catholique, venant de, par exemple, de musulmans ou d'autres religions, on pourra le tolérer s'il y a une certaine utilité. C'est le cas notamment des juifs, car leur culte est un témoignage à notre Seigneur et à sa divinité. En effet, tout le culte juif nous rappelle ce qu'a été l'Ancien Testament, qui a annoncé la venue du Sauveur. Et la permanence du culte juif peut servir de preuve à la vérité de la foi catholique. Voilà pourquoi l'Église a toujours toléré les cultes juifs. Il y avait à Rome des synagogues, des ghettos, des quartiers, où les juifs pouvaient librement exercer leur culte. Ils étaient enfermés dans un quartier pour éviter qu'ils ne répandent leur foi vis-à-vis des catholiques. Il y avait aussi certaines limites vis-à-vis d'eux. Justement, ils ne pouvaient pas avoir des serviteurs catholiques pour que, toujours en vue de la préservation de la foi. Mais il y a toujours une liberté, une tolérance pour les juifs. Vis-à-vis des hérétiques et autres infidèles, saint Thomas d'Aquin nous dit qu'il n'y a pas d'utilité à l'hérésie en elle-même. Voilà pourquoi on ne la tolérera que si c'est pour éviter un plus grand mal. Si pour préserver la paix civile, il faut accepter ces faux cultes, alors, à ce moment-là, on tolérera eh bien, ces pratiques extérieures de culte. Mais autrement, il est plus normal de limiter leur action, de limiter leur prosélytisme, pour qu'elles nuisent pas. Là encore, vous voyez, c'est la prudence qui va régir les choses. Maintenant, vis-à-vis des personnes, enfin. Tout d'abord, il faut nous rappeler que l'Église est inspirée par la charité et par la douceur. Et qu'elle doit en priorité guider les âmes par la bonté, par la prédication, par la sainteté. Et elle doit être toujours prête à pardonner. Elle doit plus pratiquer l'affection pour convertir que la sanction. Mais parfois, si les fautes commises sont graves, au point de nécessiter une sanction, eh bien, l'Église pourra, eh bien, donner des sanctions, même par ses tribunaux ecclésiastiques. Mais là encore, dans cette sanction, elle devra avoir pour souci avant tout d'amender le coupable pour le ramener dans la voie droite et surtout éviter cette propagation de l'erreur et du mal. En pratique, comment cela se fait vis-à-vis des personnes ? Tout d'abord, à l'égard des non-baptisés, ils ne sont pas soumis à la juridiction de l'Église. Donc on ne pourra jamais les contraindre à recevoir le baptême. Le baptême, comme disait Alcuin, est un acte libre. Et on ne peut pas contraindre à la foi et au baptême. Même, bien plus, contraindre au baptême est un acte intrinsèquement mauvais. À l'exception du cas, bien sûr, d'un enfant qui n'a pas l'âge de raison et qu'on peut baptiser en cas de péril de mort pour assurer son salut. Mais c'est là un peu une exception. En revanche, l'Église peut et a le droit de faire entendre la prédication de la vérité aux non-catholiques pour leur rendre possible leur conversion. Voilà pourquoi elle peut rendre obligatoire même à des enfants non baptisés ou non catholiques le catéchisme catholique, tout en laissant cette liberté ou non de recevoir le baptême et d'adhérer à la foi. L'Église a toujours le droit d'être missionnaire. Elle a même ce devoir. Donc, par la prédication, par l'exemple. Elle pourra parfois aussi empêcher la persécution contre les catholiques ou contre ceux qui veulent se convertir. Et là, c'est la raison d'être de toutes les croisades. Préserver les chrétiens persécutés ou préserver ceux qui voudraient se convertir à la foi. Et on le voit dans toutes les croisades, que ce soit la croisade contre les albigeois, où il s'agissait de protéger les chrétiens, ou même les croisades en Terre Sainte, où les musulmans réduisaient en esclavage les catholiques, les pèlerins devaient abjurer leur foi, ou alors c'était des risques de l'esclavage, et pour défendre les populations chrétiennes, il y a eu ces croisades. Mais jamais pour contraindre l'infidèle à la foi. Voyons maintenant à l'égard des baptisés, hérétiques ou schismatiques, donc ceux qui ont reçu le baptême, mais qui sont dans l'erreur sur la foi, ou qui sont séparés de Rome. La situation est très différente, car ils sont, par le baptême, membres de l'Église, et donc soumis à la loi de l'Église, à la différence des infidèles. Ils sont donc soumis aux tribunaux ecclésiastiques et ce qu'on a appelé à l'Inquisition, qui a été très critiqué. Quand on nous raconte notamment les torts de l'Inquisition espagnole vis-à-vis des Juifs, c'est une pure invention, car les Juifs n'étaient pas soumis à l'Inquisition. L'Inquisition est un tribunal ecclésiastique qui ne peut s'exercer que vis-à-vis des baptisés, nullement à l'égard des infidèles. Et saint Thomas d'Aquin, justement, se pose la question. Tout d'abord, leur rite, on l'a vu, ne doit pas être toléré, à moins d'une nécessité plus grande, s'ils sont trop nombreux, pour préserver la paix publique. Saint Thomas d'Aquin se pose la question, doit-on tolérer les hérétiques? En ce qui concerne les hérétiques, il y a deux choses à considérer, une de leur côté, une autre du côté de l'Église. De leur côté, il y a péché, celui par lequel ils ont mérité non seulement d'être séparés de l'Église par l'excommunication, mais aussi d'être retranchés du monde par la mort. C'est très sévère. En effet, il est beaucoup plus grave de corrompre la foi qui est sur la vie de l'âme que de falsifier la monnaie qui sert à la vie temporelle. Par conséquent, si les faux monnayeurs et autres malfaiteurs sont immédiatement mis à mort en bonne justice par les princes séculiers, bien davantage les hérétiques, aussitôt qu'ils sont convaincus d'hérésie, peuvent-ils être non seulement excommuniés, mais très justement mis à mort. Donc ça, c'est vu du côté de l'hérétique, vu du côté de l'Église. Du côté de l'Église, au contraire, il y a une miséricorde en vue de la conversion des égarés. C'est pourquoi elle ne condamne pas tout de suite, mais après un premier et un second avertissement, comme l'enseigne l'apôtre. Après cela, en revanche, s'il se trouve que l'hérétique s'obstine encore, l'Église n'espérant plus qu'il se convertisse, pourvoit au celui des autres en les séparant d'elle par une sentence d'excommunication. Et ultérieurement, elle l'abandonne au jugement séculier pour qu'il soit retranché du monde par la mort. Saint Jérôme dit en effet ceci, qu'on trouve dans les décrétales, « Il faut couper les chairs pourries et chasser de la bergerie la brebis galeuse, de peur que tout le troupeau ne souffre, ne se corrompe, ne pourrisse et périsse. » Arius dans l'Alexandrie fut une étincelle, mais parce qu'il n'a pas été aussitôt étouffé, son incendie a tout ravagé. Cette position peut paraître très sévère, mais dans la pratique, l'Église usera de miséricorde, et les tribunaux d'inquisition seront bien plus tendres que les tribunaux civils. Dans le cas de l'Inquisition, la torture sera vraiment une exception, et elle n'apparaîtra d'ailleurs que quand elle sera généralisée dans les tribunaux civils. l'Église, là, finalement, se montrera en général très clémente, au point que les princes catholiques essaieront de reprendre à l'évêque ou autre ces jugements des hérétiques, surtout ceux qui troublent l'ordre public, car l'Église est toujours trop bonne, et elle remet. Et quant aux peines prononcées, bien souvent, on le voit donc dans les face au Qatar, c'est rarement la peine de mort. C'est bien plus souvent quelques prières, quelques pénitences, des visites d'église, ou alors le port d'une croix sur ses vêtements, pour désigner un petit peu celui qui adhère une foi fausse, de façon qu'il ne corrompt pas les autres. Et même très souvent, il y a des absolutions collectives, on peut dire. Plusieurs régions sont, par le pape ou par l'évêque, eh bien, tous les coupables qui avaient été condamnés sont libérés de la sentence. L'Église, finalement, se montre d'une très grande bonté. Et quand il y aura des abus, notamment dans le cadre de l'Inquisition, ça sera souvent dû au pouvoir civil. C'est le cas de Jeanne d'Arc, qui a été jugée par des tribunaux d'Inquisition, mais qui était à la solde des Anglais et des Bourguignons. C'est le cas encore des Templiers, tribunaux d'Inquisition, qui étaient à la solde du roi Philippe le Bel, qui voulait s'emparer des biens des Templiers. Et l'Église, d'ailleurs, protestera. Mais cela sera l'exception, et une véritable analyse de l'histoire montrera finalement que l'Église fera preuve vraiment de bonté. Si le sujet vous intéresse, vous avez cet excellent livre de Jean Dumont, « L'Église au risque de l'histoire », qui aborde un petit peu toutes ces critiques. Parfois, il se montre un peu partisan de la liberté religieuse de Vatican II. En cela, ce n'est peut-être pas le meilleur, mais dans l'ensemble, au niveau des faits historiques, il rétablit vraiment la réalité. L'Église encore pourra se montrer assez sévère vis-à-vis de ce qu'on appelle les pécheurs publics, ceux qui donc peuvent troubler la foi ou donner le mauvais exemple. C'est le cas des suicidés volontaires, de ceux qui pratiquent le duel, le cas des concubins notoires, de ceux qui vivent en état d'adultère ou d'inceste notoire, la sodomie, ou le prosélytisme, la violation de sépulture, péché grave contre les saintes espèces et publiques, attentat contre le pape, contre les évêques. Pour tous ces péchés graves et publics, l'Église donnera des peines extérieures. C'est principalement la privation de sépulture ecclésiastique. Si ces gens ne se convertissent pas, ils ne pourront pas recevoir, être enterrés à l'Église, mais d'enterrement public et même dans un cimetière catholique. Et l'Église le fait non pas parce qu'elle affirme que ces gens sont nécessairement damnés, mais bien plus pour les vivants, pour montrer la gravité de ces fautes et inviter ceux qui restent à ne pas commettre de tels péchés. C'est principalement à un titre éducatif. Et là encore, on ne peut pas parler d'intolérance. C'est la protection du respect du mariage, la lutte contre l'adultère, c'est le cas des divorcés mariés, est nécessaire pour le bien de la société, principalement pour le bien des enfants. Et si l'Église ne le fait plus, elle nuit gravement aux plus faibles. En résumé, finalement, l'Église ne pourra jamais se montrer tolérante pour ce qui est de foi définie, car alors elle trahirait sa mission. Mais il est intéressant de noter que finalement, toutes les doctrines sur la chose essentielle en matière de leur foi, entre guillemets, se montrent intolérantes. Et les libéraux eux-mêmes sur leur dogme, leur refus de Dieu, se montrent intolérants. Si on affirme qu'il y a un Dieu et que ce Dieu doit gouverner la société, essayez, affirmer le Christ roi devant un de ses libéraux, vous verrez comme il se montrera tolérant. Finalement, chaque doctrine se doit d'affirmer ses principes avec certitude. Et l'Église le fait. Cela est naturel. Ou alors, c'est l'absurdité la plus complète. Pour le reste, l'Église se montrera finalement extrêmement ouverte, extrêmement tolérante. Elle est vraiment donc une mère qui cherche à préserver ses enfants. Et si elle doit sanctionner, c'est uniquement pour préserver les plus faibles du mal ou de l'hérésie. Voyons maintenant rapidement un petit peu quelle est la mission de l'État et de l'État chrétien vis-à-vis donc des fausses religions. Rappelons tout d'abord la position de l'Église et de l'État. Il existe dans le monde deux sociétés, l'une parfaite et une imparfaite. Deux sociétés parfaites, l'Église et l'État. et elles ont toutes les deux leur autonomie et leur domaine propre. L'Église catholique a pour domaine bien la bonne organisation de la vie sur terre, un certain bonheur terrestre, et l'Église, elle, a pour mission le salut éternel. Un État dont les membres sont catholiques ne peut pas se désintéresser de la question du salut éternel, car cela fait partie intégrante, même essentielle, du bonheur de ses membres. S'il n'appartient pas à l'État de prêcher l'Évangile, de donner les sacrements, il appartient en revanche à l'État de donner aux chrétiens, aux catholiques, les conditions optimales pour que leur foi puisse s'épanouir et pour l'exercer. Ils doivent donc entourer tout ce qui est le sauver des âmes de conditions telles pour que se sauver soit le plus simple. Il y a l'objection donc, quelle est la vraie religion? Mais on l'a abordé rapidement, eh bien on peut montrer que l'Église est la vraie religion. Il y a des preuves, des témoignages que l'Église est crédible. Voilà pourquoi l'État ne peut pas dire, moi je ne sais pas quelle est la vraie religion, je me montre neutre ou laïque. Bien plus, la société civile est l'œuvre de Dieu, a été créée par Dieu. Voilà pourquoi, en tant que telle, elle doit rendre un culte à Dieu. Et on voit encore un petit peu dans notre Suisse, dans notre constitution suisse, des restes de ces principes. Avant chaque réunion du Grand Conseil, de chaque session, il y a encore une messe à la cathédrale, ou chez les protestants, un culte qui a lieu. Pour rappeler que l'État, eh bien, reste soumis à Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, cela perd un petit peu sa signification, mais c'est quand même un beau reste qu'il faut préserver. De la même manière, cette fête fédérale d'action de grâce, où c'est la société civile qui rend grâce à Dieu pour les bienfaits. Et cela montre un peu. Alors, l'État peut-il accorder la liberté de conscience, c'est-à-dire chacun peut faire ce qu'il veut en matière religieuse? Bien non, car cette liberté-là, comme disent les papes, c'est la liberté religieuse. Il ne suffira pas d'accorder un droit égal à toutes les religions, mais elle devra donc préserver et favoriser la vraie religion. Si dans un État, tous les citoyens sont catholiques, eh bien les fausses religions doivent être prohibées pour défendre la foi. On interdira donc leur culte public et même de les répandre par des livres ou par des prédications. Mais dans la pratique, aujourd'hui, il n'y a plus cette situation où tous les habitants d'un pays sont catholiques. Que devra faire alors l'État? Tout en reconnaissant l'Église catholique comme unique et véritable, et en lui reconnaissant ses droits, eh bien l'État pourra cependant, pour préserver la paix publique, permettre l'exercice des autres religions, et même accorder ce qu'on appelle un droit de tolérance, dont parlent les papes, c'est-à-dire les assurer qu'ils ne seront pas troublés, au moins pour un temps, dans l'exercice public de leur religion. Mais sans nullement reconnaître pour ces fausses religions un droit quelconque, car l'erreur n'a aucun droit, le mal n'a aucun droit, seule la vérité et seul le bien ont des droits. Et quand les conditions qui ont rendu nécessaire cette tolérance ont disparu, naturellement, cette tolérance aussi devra disparaître. On voit, c'est tout le contraire de la liberté religieuse, telle que Vatican II l'a affirmée faussement, où là, chaque religion a le droit de s'exprimer en tout lieu et